Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout de suite, c'est en musique que nous vous avons accueillis dans Remue-ménage aujourd'hui, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, parce que nous faisons la fête aujourd'hui dans nos studios et nous sommes en fête avec l'Afrique du Sud. Vous l'aurez peut-être reconnu, mais je ne crois pas, parce que c'est une femme qu'ici on connaît peu et c'est très dommage. On va vous la présenter tout de suite et ceci en compagnie de Marie-Noël Anderson. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour, quel bonheur d'être là aujourd'hui avec vous toutes.
Alors Marie-Noël, quelle est la chanteuse que nous entendons qui chante « Be proud to be African » ?
C'est Yvonne Chaka Chaka qui chante « Amandla Ngawetu, pouvoir au peuple » et ça nous pouvons vraiment le dire aujourd'hui à ces élections qui sont en train de, enfin qui sont terminées, mais où le comptage est encore en train de se faire.
Et cette femme, pourquoi on ne la connaît pas jusque chez nous? On connaît bien sûr Myriam Makeba, il y en a quelques autres que l'on connaît un petit peu, mais il y a, vous m'avez amené comme ça, une série de cassettes. On va découvrir des chanteuses sud-africaines magnifiques et qu'on ne connaît très peu ici. Pourquoi il y en a qui passent les frontières, d'autres pas?
Bon, eh bien Myriam Makeba, c'était vraiment Mama Africa qui a été connue un peu partout. Elle a été ambassadrice de l'Afrique du Sud aux Nations Unies à New York. C'était la plus connue. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y a une foule de musiciens, musiciennes, artistes en Afrique du Sud qui n'ont jamais pu s'exprimer pour des raisons d'argent, pour des raisons d'infrastructure. Les portes leur étaient fermées. Et c'est des gens qui ont fait en fait beaucoup parce qu'ils ont maintenu le courage de tous leurs frères et sœurs sur place. Et quand ils le pouvaient, ils exportaient un peu leur peine, ils dénonçaient. Ils ont fait beaucoup dans la lutte aussi en Afrique du Sud. Et il y en a beaucoup et maintenant il faut qu'on puisse les entendre qui sortent des frontières.
Alors, d'abord, pourquoi sommes-nous en compagnie de Marie-Noël Anderson? Peut-être vous souvenez-vous, c'était il y a pratiquement une année et demie. Nous nous étions déjà rencontrés autour d'un livre que vous aviez écrit, Marie-Noël Anderson, qui s'appelait « Couleurs d'exil » et qui était toute une série de portraits d'exilés sud-africains que nous avions découvert en votre compagnie au tout début de l'année, encore dans le grand froid. Et aujourd'hui, vous nous revenez parce que vous avez eu l'occasion de retourner en Afrique du Sud relativement récemment, puisque c'était en novembre dernier, c'est cela?
Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'était merveilleux pour moi de retourner dans mon pays, puisque l'Afrique du Sud est mon pays aussi.
Voilà ce qu'il fallait dire, bien sûr.
Bien oui. Parce que c'était la première fois que j'avais l'occasion depuis passé 25 ans d'y retourner en étant vraiment chez moi, tranquille, en me baladant partout, en étant bien dans ma peau parce que les choses changent. Elles étaient vraiment en bonne voie de changer déjà l'année passée, avant les élections.
Rappelons-le peut-être juste à nos auditrices, vous êtes donc née en Afrique du Sud.
C'est
et
ça,
puis,
oui.
Aujourd'hui, vous êtes en Suisse. Entre les deux, juste une ou deux étapes pour qu'on comprenne pourquoi vous avez, c'est bien aujourd'hui de vous retrouver dans ces conditions en Afrique du Sud. Vous êtes partie à un moment donné, vous avez fait le choix de partir vous à un moment donné.
Écoutez, non, à l'époque, ce n'est pas vraiment moi qui ai fait le choix parce que c'est ma mère qui est rentrée en Suisse quand j'étais toute petite. Donc j'ai vécu, j'ai fait mes écoles, etc. en Suisse. Mais j'y suis retournée après coup une première fois à l'âge de 20 ans où j'y ai vécu 3 ans. Et bon, c'était au fond ma première prise de contact consciente avec l'Afrique du Sud. Et par la suite, j'y suis pas retournée parce que d'abord, je pensais que j'avais autre chose à faire, que j'avais des choses à faire ici en Europe. Et ensuite, parce que me rendant compte de la situation en Afrique du Sud, j'avais décidé que j'y retournais une fois que le pays serait libre. Et bon, le moment est là. Donc, c'est toute une redécouverte concrète, je veux dire, de mes racines sud-africaines. Et c'est extraordinaire, je veux dire, quand je suis arrivée de l'aéroport l'automne passé, de sentir cette énergie, c'est quelque chose d'absolument unique. Donc, je crois que même quand on ne vit pas sur place, qu'on part très jeune, il reste toujours quelque chose d'important de l'endroit où on est né.
Précisons bien sûr à nos auditrices aussi que vous êtes blanche. Je pense que ça a de l'importance aussi,
oui,
bien
ça
sûr.
On a, oui, avec ce contexte-là,
on est obligé de le préciser. Alors, c'est avec toute la vie de Marie-Noël que nous allons aujourd'hui se réjouir de ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que bien sûr, il y a tout ce qu'on peut savoir et connaître. Comme ça, en s'informant, nous autres aussi, depuis ici, qu'on a des espoirs, des batailles qu'on a menées pour que les choses changent en Afrique du Sud. Mais c'est bien sûr tout autre chose d'avoir des nouvelles de là-bas, de sur place, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a pu parler avec les gens dans la rue, et en particulier les femmes, parce que bien évidemment, nous avons envie de parler surtout des femmes, pas seulement, mais surtout des femmes aujourd'hui. Et je crois que Marie-Noël, vous avez décidé de mettre un accent particulier sur les femmes en Afrique du Sud. Être femme en Afrique du Sud, c'est aussi une chose qui vous a intéressé en particulier.
Oui, absolument, parce que vous savez que les femmes en général, d'abord, les femmes africaines deuxièmement et les femmes sud-africaines, je crois, doivent avoir les épaules les plus solides du monde, parce qu'elles ont dû porter tellement, tellement de choses sur ces épaules. Déjà depuis, 80 ans en arrière, avec toute la problématique des travailleurs migrants, où elles se retrouvaient seules à s'occuper de leurs enfants, à s'occuper de fournir la nourriture, etc., de cultiver leurs champs. Et jusque aussi maintenant, ces dernières années, les années 80, qui ont été très très dures sous l'apartheid, les années 70 aussi, où souvent leurs maris étaient emprisonnés, leurs fils aussi aînés, qui pouvaient un petit peu apporter quelque chose pour le ménage, pour la famille, pour l'argent dont ils avaient besoin. Elles ont dû se débrouiller et tout porter sur leurs épaules, autant économiquement qu'affectivement, qu'en tant que préservatrice, disons, de toute cette tradition africaine aussi et de la fierté africaine qui, forcément, dans un État comme l'Afrique du Sud, un système comme l'Afrique du Sud, était bafoué au maximum. Mais les femmes étaient tout au bas de l'échelle, évidemment.
Et aujourd'hui, de nombreux espoirs pèsent aussi sur leurs épaules pour la reconstruction de ce nouveau pays que va être l'Afrique du Sud.
Oui, évidemment. Donc ça, on pourra peut-être en parler après. Et je pense qu'elles vont être très importantes. Et en tout cas, elles ont une énergie débordante et folle. Donc il n'y a absolument aucun doute sur tout ce qu'elles vont réussir à mettre sur pied.
Mais tout d'abord, Marie-Noël, quelle a été votre réaction, comme ça, très, très personnelle, de quelqu'un qui est très impliqué, en voyant depuis ici, parce que vous étiez là, les manifestations de joie au résultat des élections? Alors peut-être rappelons peut-être quelques chiffres, sûrement tout le monde les connaît, mais à l'heure actuelle, donc c'est les chiffres d'hier, avec 41% des bulletins dépouillés, l'ANC a obtenu 61% des suffrages, donc ANC, le Congrès national africain, le parti mené par Nelson Mandela, le Parti national de Frédéric de Clercq à sa tête Frédéric de Clercq, 24% des voix, et le Parti de la Liberté, Inkatha, donc nationaliste zoulou, mené par M. Buthelezi, 6% des voix, et le Front de la Liberté, donc les Blancs qui sont pour le maintien de l'apartheid, 2,9% des voix.
Oui, alors bon, je crois qu'il y a même déjà un petit écart en plus encore
déjà
ces derniers chiffres. Et bon, ça continue de toute façon au fur et à mesure que le dépouillement se fait. Il est évident que depuis le 26 avril où je suis allée voter ici au consulat, je touche plus terre. Je dois dire, je ne touche plus terre et chaque fois qu'on regarde, on ouvre la télévision pour voir c'est quoi les derniers développements, les derniers chiffres, etc. C'est un bonheur absolument total que je partage dans les tréfonds de mon âme avec tous ces gens qui sont descendus dans les rues pour fêter, pour célébrer, pour enfin faire éclater leur joie. Et ce qu'il y a de fou, c'est que, bon, en Afrique du Sud, en général, le soir, les rues sont désertes. Il n'y a vraiment personne. Et de voir tout ce monde en train d'exubérer, d'être dans un bonheur, une joie totale, est tellement... Je veux dire, il y a des choses très, très fortes, très puissantes qui sont dites. On voit à quel point c'est vraiment une libération. Et quand Nelson Mandela, au terme de son discours, disait « free at last », ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Tous les non-dits qu'il y a eu pendant si longtemps... parce que ça servait à rien de s'attarder là-dessus, je veux dire, il fallait survivre, etc. Maintenant, tout d'un coup, on peut balayer tout ça et les gens existent, chacun existe, il est reconnu en tant qu'être humain à part entière. Et bon, de voir Nelson Mandela danser, de voir Desmond Tutu danser, c'est absolument magnifique, on y croyait presque plus à un moment donné. Et aussi, au fur et à mesure que les négociations s'arrêtaient, reprenaient, qu'il y avait des massacres, qu'il y avait des choses affreusement dures, qu'on semblait arriver à des impasses, c'est vrai qu'il y avait de quoi désespérer à certains moments. Et de voir qu'aujourd'hui, c'est vrai, et que ça s'est passé finalement vraiment assez bien, je veux dire, personnellement, je m'attendais quand même à plus de problèmes de violence, d'attentats, de choses comme ça. Bon, beaucoup de gens ont payé de leur vie ce jour-ci, cette célébration-ci, et il faut penser à eux. J'ai été votée en compagnie d'un ami qui est le cousin d'Alcee September, qui était à Paris et qui avait été assassiné. Et je veux dire, c'était un moment très, très émouvant de se retrouver là. On se disait, si Alcee était là, elle serait extrêmement heureuse, et je pense qu'elle nous regardait de là où elle est.
Et justement, lorsque vous avez été votée, Marie-Noëlle, l'atmosphère au consulat sud-africain, comment ça se passe? Parce que là, c'est aussi tellement inhabituel d'imaginer qu'on se retrouve ici en Suisse pour faire un geste aussi important que voter pour la première fois.
Vous pouvez sûrement imaginer que, disons, le consulat sud-africain, ce n'est pas un lieu où je suis allée très souvent avant.
Non, je pense bien avant, oui.
J'y suis allée une fois en tant que collaboratrice de Regard Africain pour déposer des revues. Et à part ça, je n'y étais jamais allée. Il y avait de tout, je dirais surtout qu'il y avait des regards qui n'avaient pas du tout l'air tellement à la joie et qui n'avaient pas l'air de beaucoup célébrer. J'étais surprise de voir que tout se faisait en fait comme en Afrique du Sud, avec ces appareils avec l'encre invisible, donc pour pas qu'on puisse voter deux fois. Ce qu'il y avait d'amusant, c'est qu'on a besoin d'un document forcément pour aller voter. Je n'ai pas de passeport sud-africain et pour cause, parce que d'abord on ne pouvait pas avoir les deux, etc. Donc ça, je vais le recevoir et je me réjouis beaucoup. Mais j'avais une vieille carte d'identité. Et ça aussi, c'est amusant parce que jamais j'aurais cru que cette carte d'identité serait un jour tellement importante. Donc, c'est une carte qui datait de 65 ou quelque chose comme ça. Le compatriote avec qui je suis allée voter avait aussi une carte de cette période-là. Donc, nos photos correspondaient plus exactement à notre allure d'aujourd'hui.
Bon, on n'a pas chipoté, on vous a
laissé
voter.
Absolument pas chipoté, je ne sais pas. J'imagine que franchement, j'aurais pu la donner à n'importe qui pour aller voter, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas de registre et de choses comme ça. Toujours est-il, on a pu voter, c'est ça qui était important. C'était très formel. Il y avait une ou deux personnes, disons, qui effectivement avaient l'air extrêmement heureuses autant que nous. Mais disons, c'était très contenu. Donc c'était un peu particulier. On nous a beaucoup demandé comment ça se faisait qu'on n'ait pas fait les démarches pour que nos enfants puissent devenir sud-africains et comment ça se faisait qu'on ne s'était jamais inscrit au consulat. Disons que ce n'était pas vraiment le jour où on avait envie d'entrer dans ce genre de considération et d'explication, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changeront encore assez lentement quand même.
Encore un petit mot, Marie-Noëlle, sur le consulat. Tout à coup, vous vous souvenez d'un événement ultra récent.
Oui, alors j'ai appris ce matin que la semaine passée, certaines personnes avaient reçu déjà des invitations pour les célébrations du 10 mai. Donc le 10 mai, ce sera l'intronisation, si on peut dire, de Nelson Mandela officielle.
Donc élu au sein de l'Assemblée nationale. C'est voilà. Un système qui ressemble au système suisse, quelque
oui,
part.
Oui, exactement, exactement. Mmh. Je me suis enquise au consulat parce que je pense que ce serait vraiment le moment où tout le monde puisse célébrer, parce que je crois que c'est quelque chose qui doit être fêté par tous les Sud-Africains. Et apparemment, c'est, je ne sais pas, réservé à une certaine élite. Et je pense que ça mettra du temps jusqu'à ce que les choses changent et que certaines choses, on devra encore les faire séparément malgré tout, jusqu'à ce qu'il y ait les nouveaux envoyés de Thabo Mbeki, qui sera probablement le ministre des Affaires étrangères.
Vous êtes sur Radio Zone 93.8, vous êtes dans Ondes Femmes et plus particulièrement dans Remue Ménage. Et aujourd'hui, nous faisons d'abord la fête pour marquer la victoire du retour de la démocratie et de la liberté, surtout en Afrique du Sud. Et nous sommes en compagnie de Marie-Noëlle Anderson, d'origine sud-africaine, blanche, et qui vient nous faire partager à la fois son émotion, ce qu'elle connaît de l'Afrique du Sud et surtout ce qu'elle a pu échanger avec des gens en Afrique du Sud lors d'un dernier voyage en novembre dernier. Marie-Noëlle, tout à l'heure, vous avez fait une sorte de long, comment dire, parcours pour parler de la situation des femmes en Afrique du Sud en disant oui, ça commençait là, au départ quand les hommes sont partis travailler, etc. Et puis, on en est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit peu plus en détail ce parcours? Je crois que ça peut être une chose importante. Quelle était la place des femmes noires dans la situation d'apartheid? Parce que je crois qu'elles... Comme beaucoup de femmes, comme vous le disiez, elles ont pesé sur leurs épaules à la fois le fait qu'elles étaient noires, mais en même temps la situation de toute femme dans un système patriarcal qui est en vigueur quand même dans beaucoup de régions encore dans le monde aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de voir un petit peu l'histoire pour voir aussi où en sont les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs en Afrique du Sud aujourd'hui. Donc cette histoire de travailleurs migrants est très importante parce que c'est un point de départ, disons, de l'époque où on a créé les réserves et ce qui sont devenus par la suite les Bantoustans. Et la politique du gouvernement était de séparer les familles, c'est-à-dire c'est d'abord les hommes qui venaient dans les villes ou dans les zones industrielles, disons, pour travailler, pour gagner de l'argent, pour servir de main-d'œuvre, parce que vous savez que sous l'apartheid, les Noirs n'avaient pas beaucoup de droits, mais ils avaient surtout le devoir de travailler. En fait, c'est à ça qu'ils servaient. Bref, donc les femmes restaient dans leur zone rurale, très, très éloignées, très, je veux dire, pauvres au niveau d'infrastructures. Il n'y avait en général pas de canalisation, pas d'eau, à part les sources, d'électricité, etc. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui.
Oui, je crois bien qu'on découvre souvent que j'ai vu dans un documentaire que dans un quartier de 5000 personnes, il y avait 2 toilettes, 2 douches, ceci pour tout le monde. Et les gens parfois marchaient jusqu'à 5 kilomètres pour accéder à ces toilettes et à ces douches.
Oui, non, il y a énormément à faire, même dans les zones urbaines au fond. Enfin bref, donc les hommes partaient en ville travailler et laissaient les femmes à la maison pour s'occuper justement de leurs terres, des terres qu'elles avaient pour planter ce qu'il fallait pour nourrir les enfants, la famille. Il s'est trouvé que, au bout d'un certain temps, des lois ont été promulguées qui interdisaient aux femmes de posséder des terres. Et le gouvernement avait aussi nommé certains chefs, enfin pseudo-chefs tribaux, il faudrait dire, qui ont bien tout fait pour que ces lois soient respectées et qui ont donc provoqué aussi le départ des femmes en ville pour travailler, pour avoir de l'argent. Donc tout cet exode a causé beaucoup de déstructuration au niveau des familles. Même pas pour les femmes qui restaient dans les zones rurales. Les maris rentraient peut-être une fois par an. Enfin, c'était vraiment pas très souvent. Et elles devaient se débrouiller, élever les enfants, s'occuper de les nourrir, s'occuper de leur faire passer, au fond, toute cette mémoire aussi de leur culture, de leur tradition. Donc, c'était quelque chose de très lourd. Je veux dire, il y avait des populations du village entier où il n'y avait que des vieilles personnes, des femmes et des enfants. Il n'y avait pas d'hommes en âge de travail, etc., qui restaient au village. Mm-hmm. Les femmes, quand elles allaient aussi travailler en ville, ça ne voulait pas dire pour autant qu'elles pouvaient rejoindre leur mari. Hein. Il y avait beaucoup de cas où les femmes ou les hommes, d'ailleurs, suivant l'emploi qu'ils avaient, vivaient chez leur employeur. Et dans d'autres cas, vivaient dans des espèces de dortoirs, soit réservés exclusivement aux femmes ou exclusivement aux hommes. Donc, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas voir leurs enfants, pas recevoir leurs enfants, pas se rendre visite mutuellement, parce que tout était régi par ces fameuses lois où, si on n'avait pas le document nécessaire, le passeport interne nécessaire qui montrait qu'on avait le droit de se balader dans un certain quartier après une certaine heure, on pouvait être ramassé par la police et, je veux dire, c'était vraiment très dangereux. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, ces gens-là ont vécu séparément, ce qui a eu énormément de conséquences au niveau de cette déstructuration des familles, au niveau aussi de... Enfin, il y a eu beaucoup de répercussions, parce qu'il faut bien se rendre compte que cette société africaine en général, et d'Afrique australe en particulier, est régie par des règles très strictes, en fait. Il y a à la base des coutumes très précises au niveau des différentes étapes de la vie, l'étape de l'initiation pour les garçons, pour les filles, des règles, des comportements qu'on adopte à ce moment-là. Ensuite, il y a le mariage, il y a les naissances, etc. Donc, au fond, tout ça, ça a été balayé. Ce qui fait qu'il y a eu une recrudescence aussi dans les villes d'enfants illégitimes absolument incroyables. On dit qu'il y avait des périodes où, dans la population noire, passait 60% des enfants étaient des enfants illégitimes. Donc, ça impliquait des graves difficultés pour ces mères, d'une part au niveau pratique pour les nourrir, ces enfants, et subvenir à leurs besoins, leurs propres besoins, ceux des enfants, et ensuite aussi au niveau de tout le respect traditionnel qui n'était plus là, parce qu'elles avaient transgressé toutes ces lois qui ne pouvaient plus exister à cause de la déstructuration due à la politique, au système d'apartheid.
Mais de toute façon, dans toutes ces familles, aussi ce qui fait partie aussi de la tradition et qui s'est imposé de façon évidente malgré toute cette déstructuration, c'est le fait que la femme est vraiment de toute manière celle qui doit assurer la nourriture, l'éducation de la famille.
Absolument, c'est le rôle qui lui est choix et qu'elle accepte, enfin qu'elle mène extrêmement à bien. Ça n'empêche pas que c'était forcément parfois des circonstances extrêmement difficiles. Et bon, je pense notamment à ces femmes qui ont travaillé, qui ont élevé des enfants blancs, alors qu'elles devaient donner leurs enfants, leurs propres enfants à d'autres.
Je dirais. Ouais, c'est qu'en fait, elles ont dû travailler, alors que normalement, peut-être dans la structure traditionnelle, l'homme va travailler, amène de quoi faire subvenir la famille, et puis ensuite, c'est la femme qui s'occupe de tout ça. Mais là, elles devaient tout faire en même temps.
Oui, et surtout que, bon, même dans la structure traditionnelle, vous avez la famille élargie, dans le sens que, bon, il y a la polygamie, il y a plusieurs femmes, donc les enfants, elles ont toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux, ou bien si c'est pas l'autre femme, c'est la tante ou la sœur ou la grand-mère. Mais c'était beaucoup plus difficile. Je veux dire, dans les villes, ça n'existait plus, ça. Donc, il y avait peut-être une voisine. Je veux dire, toutes les femmes dans les villes avaient ces mêmes problèmes. Ce n'était pas toujours évident de trouver quelqu'un qui pouvait s'occuper des enfants de la même façon que ça aurait pu l'être, justement, dans les zones rurales, avec quand même encore une certaine tradition qui pouvait être là, être vivante.
Et vous disiez, Marie-Noëlle, que beaucoup de femmes ont trouvé comme travail de s'occuper et d'être femmes de ménage, bonnes, enfin je ne sais pas comment on les appelle, quel est le terme de mépris qu'on devait utiliser ou qu'on doit utiliser encore aujourd'hui pour le travail de ces femmes dans des familles blanches, où elles n'étaient pas autorisées à avoir leurs enfants avec elles.
Ben oui, justement. Au point de vue professionnel, on peut peut-être juste faire une parenthèse aussi, dire que... vous savez qu'avec le système d'éducation bantou, il était destiné, disons, à faire en sorte que les Noirs ne puissent pas accéder à des postes importants dans la société et dans l'économie. Donc pour les femmes, vraiment le top qu'on puisse imaginer, c'était des infirmières et des institutrices, par exemple. Et en dessous, les autres étaient toutes vendeuses ambulantes, elles étaient domestic servants, comme on les appelait, elles étaient nounous, elles étaient, enfin bref, elles travaillaient pour des blancs, à des titres divers.
Et alors, vous disiez, elles, non seulement elles n'avaient pas le droit d'avoir leurs enfants avec elles, donc elles devaient les abandonner. Et souvent, les townships sont très loin des quartiers blancs, donc il y avait des très longs trajets. Ces enfants étaient beaucoup livrés à eux-mêmes.
Oui, il faut s'imaginer ce que c'était que la... Enfin, ce que c'est encore hein, pour beaucoup d'entre elles. N'oublions pas la vie de ces femmes. Souvent, elles se lèvent à 4 heures du matin. Elles prennent le bus, je veux dire, d'abord elles préparent, je ne sais pas, un petit déjeuner pour que les enfants, quand ils se lèvent, trouvent au moins quelque chose. Ensuite, elles prennent le bus, elles font un très long trajet en bus, elles changent peut-être 2-3 fois de bus pour arriver, mettons, à 6h, 6h30 chez leur employeur, où elles commencent à préparer le petit déjeuner, elles commencent à faire enfin toutes leurs tâches, etc., de ménage, de cuisine, de tout ce qu'elles ont à faire, s'occuper des enfants, etc., des enfants blancs. Et elles finissent leur journée tard, donc elles rentrent peut-être chez elles à leur township à 9h du soir. Et c'est une vie absolument inimaginable pour nous. Et quand on imagine que ce sont des mères, je veux dire, quand est-ce qu'elles voient leurs enfants ? Elles les voient en train de dormir, c'est tout.
Et bien sûr, pendant ce temps, les enfants vivent dans les townships dont on sait, hélas, qu'ils sont plutôt souvent des bidonvilles qu'autre chose, avec tout ce que ça peut représenter comme difficulté à vivre dans un lieu comme ça, de violence qui existait, de pauvreté. Et les enfants vivent seuls toute la journée dans ces milieux-là.
Oui, alors ça, j'ai pu avoir pas mal d'exemples justement lors de mon dernier voyage. Par des groupes de femmes, notamment le Women's Health Project à Johannesburg, qui démontrent, enfin statistiquement aussi, que un des problèmes majeurs, à part le problème de la violence, hein, ça on en parlera peut-être après, mais c'est tout ce problème d'enfants parents, d'enfants chefs de famille, dans le sens que les mères, les pères sont là, sont pas là, les mères doivent travailler, et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc on sait qu'il y a eu toutes ces deux générations maintenant presque d'enfants qui ne sont pas allés à l'école, en grande partie pas allés à l'école, parce que c'était finalement, selon les régions, extrêmement dangereux. On ne pouvait pas aller à l'école, il pouvait y avoir des descentes de police n'importe quand, les enfants se faire amasser, mettre en prison, torturer, alors qu'ils n'avaient absolument aucune idée de ce qu'on leur demandait. Et, donc beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école, donc ils sont dans les rues forcément. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les parents, enfin les mères, souvent les croient à l'école. Et ils se rendent compte que les enfants sont en train de passer leur temps n'importe comment. Et bon, les filles tombent enceintes. Il y a énormément de très jeunes filles qui ont déjà des enfants et qui sont doublement à charge puisqu'elles n'ont pas eu le temps de se faire un minimum de formation professionnelle, forcément, puisqu'il n'y avait pas d'encadrement. Et ça fait des bouches en plus à nourrir, quoi. C'est un problème assez crucial, en fait.
Et je crois qu'on peut peut-être encore dire, vous parliez de l'école, on peut peut-être ajouter que non seulement il y a les explications que vous venez de donner, mais que le système scolaire, de toute façon, destiné aux enfants noirs, est vraiment dans un état absolument de délabrement insensé.
Oui, le système d'éducation bantou est un système minable, disons les choses clairement, justement destiné à ne pas leur donner accès à quoi que ce soit d'autre que le minimum, justement pour servir de force de travail, surtout dans les mines, et puis comme employés, etc., de maison. Bon. À part le système d'éducation en soi, genre les conditions sont aussi dramatiques, dans le sens qu'il y a des classes où vous avez 40, 50, 60 enfants par classe. Je veux dire, dans un lieu, on fait parfois des tournus de 2 ou 3 fois en une journée. Alors que, étant donné qu'il y a eu quand même pas mal de blancs qui sont partis d'Afrique du Sud dans ces dernières années par peur de la nouvelle Afrique du Sud, et, ou alors qui ont mis leurs enfants dans des écoles privées parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de mélange, beaucoup d'écoles ont fermé. On voit par exemple la situation où les professeurs de ces écoles, ex-écoles blanches, touchent le chômage au lieu d'être recyclés pour aller enseigner dans les écoles noires où on manque de professeurs. Et c'est absolument révoltant ce genre de situation.
Diablo.